De matinale spéciale au lendemain de la disparition de Jacques Chirac sur Europe 1. Sonia Mabrouk, Mathieu Béliard.
8h22, l'heure de l'invité politique. Qui est-ce qu'on va entendre ce matin en interview, Sonia ?
C'est le choix d'Europe 1. C'est un moment de radio et un moment de vérité. La dernière interview de Jacques Chirac, dernier entretien radio avec sa part d'ombre, forcément, et de lumière aussi. L'ancien président se livre, se confie. Une grande page de la 5e République, un homme sans phare. Nous sommes avec une grande voix dans ce studio, Catherine, et avec l'auteur de cette interview, Jean-Pierre Elkabbach.
Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
Dernière interview radio de Jacques Chirac. Donc c'était à votre micro sur Europe 1 à l'occasion de la sortie du tome 1 de ses mémoires en 2009. L'ancien président vous avait accordé un entretien.
Dans des conditions déjà particulières, permettez-moi Jean-Pierre Elkabbach de le rappeler, en arrivant ce matin-là, et je parle sous votre contrôle, vous arrivez à 9h au domicile de l'ex-président. Vous ne savez pas si l'ancien chef de l'État va être en forme. Vous ne savez pas comment va se dérouler l'entretien. Vous êtes un peu fébrile, forcément, ça vous arrive. Et à votre grande surprise, c'est Jacques Chirac lui-même qui vous ouvre la porte. Un Jacques Chirac prêt à se livrer, toujours habile, très décontracté. Autour, on va tout dire ce matin au micro d'Europe 1, un gin tonic, des pistaches.
Mais ça, c'est après l'entretien. Après
des pistaches l'entretien. À grignoter.
Vous savez tout comme si vous y étiez.
N'est-ce pas ? Quelques pintes de bière, bien noire, la bière. Bref, un Chirac généreux et entier qui se livre à vous, Jean-Pierre Elkabbach.
Et on va écouter ce premier extrait. Jacques Chirac, un destin politique vraiment ? Pas vraiment, car il n'en rêvait pas. Ce n'était pas son ambition.
Alors, vous avez été maire de Paris 18 ans, Premier ministre 4 ans, plusieurs fois ministre. Président de la République, 12 ans. Et pourtant, dans le livre, vous dites que rien ne vous prédestinait à une carrière politique. Alors, comment ça se fait ?
Vous savez, quand j'étais jeune, j'avais une ambition. Je voulais être marin au long cours. Et c'est d'ailleurs dans cet esprit que je m'étais embarqué sur comme pilotin, c'est-à-dire un poste tout à fait modeste, bien entendu, sur un bateau de la marine marchande. Et mon ambition à l'époque, c'était de poursuivre une carrière et devenir peut-être un jour capitaine au long cours. Bon, jusqu'au jour où, au moment où on arrivait au port de Dunkerque, j'ai vu une grande silhouette sur le quai, c'était mon père. J'ai compris que c'était la fin des facilités et des vacances.
Et on a appris que c'est le marin Chirac qui a connu dans la casbah d'Alger sa première expérience avec les femmes.
Oui, ça c'est exact. Oui. Il faut bien que ça se passe.
On en a d'ailleurs appris de bien bonnes dans vos confidences à Jean-Luc Barré. Vous avez été enfant de cœur à l'église Saint-Philippe du Roule. Vous avez été un garçon solitaire et souvent rebelle. Vous avez découvert les civilisations de l'Asie au musée Guimet. Et vous avez failli vous convertir à l'hindouisme.
Oui, parce que ça pas longtemps.
Oui.
Une vie complexe, avec différents chemins, Catherine Ney, qu'il aurait pu emprunter Jacques Chirac. Finalement, ce sera évidemment la politique, la plus haute marche, mais cette diversité de voix qui s'offrait à lui montre combien il s'intéressait à tout, à autre chose que la politique.
Oui, et puis je crois qu'il a fait de la politique tout à fait par hasard, presque sur ordre de Georges Pompidou, parce qu'il rêvait d'autre chose. Il voulait soit diriger le secteur aéronautique en France, il aurait pu être pilotin, mais surtout il aurait pu être militaire. N'oubliez pas, quand il est allé faire son service militaire en Algérie, il voulait rester, il avait pris des contacts pour rester en militaire, et c'est le patron de l'ENA qui est venu le chercher en disant « Mais non, vous terminez vos études et vous revenez à Paris. » Donc il aurait été très heureux comme militaire. Et donc si Georges Pompidou ne lui avait pas dit d'aller se présenter en Corrèze parce que les élections menaçaient d'être mauvaises pour la droite, eh bien il n'y serait pas allé.
Il y a le combattant face à ses ennemis politiques qui n'étaient pas forcément dans le camp adverse. Écoutez cet extrait de l'interview autour de Valéry Giscard d'Estaing.
Dans vos mémoires, Jacques Chirac, on trouve à la fois des situations, des scènes, des portraits et celui de Valéry Giscard d'Estaing. Vous ne vous êtes jamais entendu avec lui ou il ne s'est jamais entendu avec vous ?
Écoutez, certainement, c'est la première option qui doit être retenue, puisqu'il était le président. C'est vrai que nous avons toujours eu une certaine difficulté à nous entendre. Alors, dans cette difficulté, il y avait d'une part le caractère, nous avions des caractères différents, et puis, il faut le dire, il y avait également l'ambition de ceux qui craignaient avant tout de voir leur propre influence sur le président diminuer éventuellement au profit de la mienne. Je pense bien entendu à Michel Poniatowski qui a tout fait pour rendre mes relations avec Giscard difficiles.
D'ailleurs, vous publiez toute votre correspondance avec lui qui a abouti, quand vous aviez été Premier ministre, à votre démission. Oui. Parce que vous avez quitté Matignon au bout de 2 ans. L'attelage était impossible. Vous écrivez qu'il se fait une haute idée de sa supériorité intellectuelle. C'est-à-dire, quand vous étiez face à lui, vous avez le sentiment qu'il cherchait à vous le montrer.
Il ne cherchait pas à le dissimuler, en tous les cas.
Mais vous racontez que c'est lui qui forme votre gouvernement, qui décide de tout.
La seule décision que je réussis à imposer, c'était Simone Veil.
Oui. Et justement, vous vous trouvez seul pour défendre la courage de Simone Veil quand elle se battait pour faire voter sa loi sur l'interruption de grossesse.
Oui.
Et il était où, lui?
Je crois qu'il était en Afrique. Mais il devait chasser, probablement.
Oui. Vous vous êtes jamais expliqué tête à tête?
Je dois dire que non. Je dois dire que non.
Mais c'est pas surprenant.
C'est comme ça. C'est la vie.
Il devait chasser les coups de griffe, hein, Jean-Pierre Alcabache.
Oui, on voit que les balles continuent à siffler à travers le temps. Mais s'il y avait Michel Poniatowski qui jouait un jeu auprès de Valéry Giscard d'Estaing contre Jacques Chirac, Chirac avait avec lui Marie-France Garraud et Pierre Juillet qui ne laissaient rien passer et qui l'ont poussé, qui s'en servaient comme d'un cheval de course pour aller jusqu'à l'Élysée.
Et maintenant, écoutez la tendresse qu'il semble avoir pour François Mitterrand, une forme de complicité. On a tous, bien sûr, en mémoire la période de cohabitation qu'il évoque.
C'était la première cohabitation de la Ve République et apparemment, vous n'en gardez pas un mauvais souvenir.
Non, j'en garde absolument pas un mauvais souvenir. Mitterrand était un homme de culture qui avait de l'ouverture et de la largeur d'esprit. Et j'ai gardé un très bon souvenir de mes relations avec lui.
Mais vous avez l'air d'oublier que la cohabitation, c'était une tension, une méfiance tous les instants.
Je ne la concevais pas, et il ne la concevait pas, comme une tension. Avant le Conseil des ministres, traditionnellement, il y a une rencontre entre le chef de l'État et le chef du gouvernement. Et alors, un certain nombre de nos collaborateurs, les siens comme les miens, se disaient « ça doit être tendu, ça doit être terrible, ils doivent se dire des choses épouvantables ». Et nous, pendant une heure, je lui expliquais ce que c'était que l'Asie et il m'expliquait ce que c'était que l'Europe du XVIIIe siècle. Nous nous sommes combattus. Mitterrand était mon adversaire, j'étais le sien. On peut combattre un adversaire et le mépriser, ou on peut le combattre et l'estimer. Et dans le cas particulier, j'avais pour François Mitterrand de l'estime. Et nous avions finalement en commun, me semble-t-il profondément, la défense de valeurs fondamentales de notre civilisation. Et ces valeurs, c'est le refus des haines ethniques et religieuses, le respect profond de l'autre, et c'est enfin la primauté du droit sur la force.
Vous avez parlé de 94 et le moment où tout le monde croyait que c'est Édouard Balladur qui allait gagner. À un moment, en août, le 26 août 94, vous êtes avec François Mitterrand à l'hôtel de ville. Vous êtes seuls tous les deux. Est-ce que vous pouvez dire ce qu'il vous confie à ce moment-là?
Il était venu sous prétexte de prendre un médicament qu'il n'a d'ailleurs pas pris dans mon bureau. Et là, il m'a dit effectivement, il faut que vous y alliez. Oui, oui, il m'a dit ça.
Vous êtes bien sur Europe 1. Nous sommes à la fois en 2009 et en 2019. 2009, cette interview exclusive, ce moment de radio que nous vous proposons ce matin sur Europe 1. Catherine Ney, les amitiés et les inimitiés sont parfois dans le même camp et dans le camp adverse. Il avait de l'estime pour François Mitterrand et une inimitié tenace pour Valéry Giscard d'Estaing.
Oui, mais enfin, sur François Mitterrand, là, je crois qu'il s'exagère un peu les rapports qu'il a eus avec lui. Je pense que quand il le voyait avant les conseils des ministres, c'est quelque chose de détendu, puisqu'il parlait d'histoire ils échangeaient sur... Mais vraiment, Mitterrand a tout fait pour le casser, déjà, avec, nous en avons parlé tout à l'heure, la loi de Vaquet, et puis surtout, dès qu'il a été candidat, il parlait de Chirac en disant qu'il était vulgaire, velléitaire, voyou,
factieux. Bien,
non, factieux. Les trois V, et c'était très rare. C'est pas Chirac, en tous les cas, ne parlait pas comme ça de François Mitterrand. Je crois qu'il s'est un peu fait avoir par François Mitterrand. D'ailleurs, c'est ce que lui reprochait Édouard Balladur, qu'il a dit que peut-être qu'il avait trop dépassionné la cohabitation en niant systématiquement les écueils et qu'il n'a pas assez marqué son territoire face à Mitterrand.
Jean-Pierre Elkabbach.
Mais c'est intéressant de voir ce que Jacques Chirac lui-même retenait de la cohabitation. Je pense qu'il avait beaucoup appris de la cohabitation pour lui-même, pour sa sagesse, pour la maturité, pour en même temps respecter et entretenir le temps long.
Enfin, il avait tellement appris qu'il n'a pas voulu recommencer une deuxième cohabitation. Il ne voulait surtout pas y revenir.
Mais je préférais entendre Jacques Chirac sur Mitterrand que d'autres qui commencent différentes sur ce qu'ils ont été. Bien sûr qu'ils se sont disputés pendant des années, bien sûr qu'il y a eu la guerre entre eux, bien sûr, mais Mitterrand arrivait tout seul face à un gouvernement de 40 personnes qu'il avait combattu tout le temps. Et donc il fallait qu'il y ait une sorte d'équilibre institutionnel qui a été peu à peu réalisé. Et c'est peut-être en 1994, sur le parvis de l'Hôtel de Ville, que beaucoup s'est réglé et que là, on a vu l'affection que François Mitterrand portait à ce moment-là oui. pour Jacques Chirac.
Opportuniste, parce qu'il détestait Balladur.
On va avancer un petit peu dans l'interview de Jacques Chirac.
C'est à ce moment-là que François Mitterrand marque son choix pour Jacques Chirac vers l'Élysée en 1994.
N'occultons pas les petites phrases non plus, les polémiques, parce qu'à votre micro, Jean-Pierre, Jacques Chirac est revenu sur la petite phrase du bruit et l'odeur. On va écouter juste, son mea culpa.
Dans une vie politique, on n'évite pas de dire des bêtises de temps en temps. Eh bien, quand on a dit une bêtise, il faut le reconnaître. C'était un propos malheureux que je n'aurais pas reproduit et que, bon, qui m'est venu spontanément. C'était une bêtise, voilà.
Rappelons le contexte de cette phrase, le bruit et l'odeur, expression extraite d'un discours de Jacques Chirac prononcé le 19 juin 1991 et connu comme le discours d'Orléans. C'est important ce matin, Catherine, de parler évidemment, il y a des hommages consensuels, mais aussi des parts d'ombre, des dérapages, des polémiques aussi de ce qui n'allait pas sous Jacques Chirac.
Oui, enfin ça c'est un dérapage, mais qui ne correspondait pas, je crois qu'il avait entendu. Il avait fait à Orléans une visite d'immeuble, enfin de HLM, où des gens lui avaient parlé de la difficulté culturelle à s'entendre avec des familles où il y avait 20 enfants qui faisaient du bruit et les odeurs et la cuisine. Ça, je crois qu'il l'a repris à son compte. Mais il ne faut pas oublier que Jacques Chirac a été celui qui a signé le décret pour le regroupement familial en 76 et qui a permis justement aux épouses des travailleurs algériens de venir en France, d'ailleurs avec l'accord de Giscard, qui l'avait soutenu. Maintenant, il dit que c'était pas une bonne mesure. Parce qu'il estimait qu'on ne peut pas laisser des travailleurs qui restent pendant 10 ans en France, hors de leur famille. Et d'ailleurs, il n'y pouvait rien. Il fallait ouvrir les vannes, puisque les femmes arrivaient avec les enfants au moment des vacances et ne repartaient pas. Donc, il fallait le faire. Donc, il y a eu cette première mesure qu'on lui a beaucoup reprochée. Et puis, n'oublions pas, en 77, les boat people, quand les Vietnamiens fuyaient leur pays avec des bateaux, risquaient et de se noyer, il avait alerté tous les grands maires des grandes villes du monde pour dire il faut les accueillir, et lui-même en avait accueilli. Il avait été à Roissy accueillir un avion de 550 personnes, et là il avait vu une jeune fille qui pleurait dont les parents étaient restés dans un camp, et cette jeune fille-là, il l'a adoptée, elle est devenue leur fille, vous voyez. Donc c'était quelqu'un qui était généreux, c'était sa générosité.
Et n'oublions pas aussi, puisqu'on parle d'immigration, que Jacques Chirac restera un rempart contre l'extrême droite le 21 avril 2002, conférera une autre dimension encore à Jacques Chirac.
Les relations de Jacques Chirac, on va continuer à en parler, celle de Jacques Chirac avec Nicolas Sarkozy. Le choc de deux ambitions, de deux caractères. Écoutez.
Vous évoquez dans le livre Nicolas Sarkozy en 1994, il était venu vous dire qu'il choisissait Édouard Balladur. Cette défection, dites-vous, ne vous laisse pas indifférent parce qu'il avait un rôle particulier auprès de vous.
Oui, mais vous savez, là encore, il me l'a dit très franchement, et cela ne m'a pas choqué le moins du monde. Dans une situation politique donnée, chacun prend ses dispositions en fonction de ce qu'il estime être l'intérêt général. Et à l'époque, M. Sarkozy, probablement considérait-il que Balladur avait plus de chances que moi d'être élu.
À l'époque, beaucoup le pensaient.
Oui, et que probablement il estimait qu'il était un meilleur candidat que moi. Voilà. Et il a donc pris sa position et je ne lui en ai pas du tout voulu. C'est un choix. Il est venu me le dire très, très, très...
Franchement, malgré les différences et les ruptures, on dit qu'il y a quelque chose de Chirac en Sarkozy.
Ça, c'est à
lui. Comme dirait Johnny Hallyday.
C'est à lui qu'il faut poser la question.
Mais à vous.
Donc, nous sommes différents par nature, par tempérament, mais que nous avons probablement une même idée de la grandeur nécessaire de la France.
On est tous très attentifs.
Jean-Pierre Elkabbach,
c'est évidemment comme
c'est
vous derrière votre poste.
Après oui. Le temps. Mais il dit Monsieur Sarkozy.
Je vous ai vu, Catherine, Jean-Pierre, je vous ai vu tous les deux un peu douter de la sincérité de Jacques Chirac sur cette phrase-là.
Oui, quand on n'a pas ce que l'on aime, il faut aimer ce que l'on a. Il ne détestait Jacques Sarkozy.
Jean-Pierre, Catherine, vous connaissez évidemment très bien le parcours politique. Vous connaissez également l'homme. Vous avez connu, vous avez côtoyé l'homme à travers différentes facettes. Vous avez connu le combattant, le sphinx, celui qui n'hésite pas face à ses ennemis. Et puis, Et puis, il y a un autre Jacques Chirac, amoureux de la culture. Comment avait dit déjà Emmanuel Macron hier, un taiseux, un amoureux taiseux de la culture, et on va ajouter de la poésie, ce qu'il a toujours un peu caché. Écoutez.
Il paraît que dans vos bureaux, il y a toujours eu un tiroir fermé à clé et qui a intrigué, même vos amis. Qu'est-ce que c'était ce secret ?
C'était tout simplement des livres de poésie. La poésie est un courant d'air nécessaire pour l'esprit, surtout pour l'esprit politique. Il y a un moment où il faut savoir s'isoler. Le meilleur moyen de s'isoler, c'est de rêver. Et pour rêver, il n'y a rien de tel que la poésie.
Jacques Chirac, la dernière interview radio de Jacques Chirac, c'était au mois de novembre 2009 au micro Europe 1 de Jean-Pierre Elkabbach, Jean-Pierre, Catherine, Sonia. Nous restons ensemble ce matin pour saluer Jacques Chirac avec nos auditeurs aussi qui racontent leur Jacques Chirac au 39-21. Il est 8h37, restez bien sur Europe 1. Ça va plus que Mathieu Béliard et Sonia Mabrouk autour de la table avec nous. Il y a Jean-Pierre Elkabbach qui a réalisé cette interview que vous venez d'entendre, la dernière interview radio de Jacques Chirac. Jean-Pierre, merci d'être avec nous. Catherine Ney, bien sûr, également, pour revenir sur ces multiples hommages, ces hommages qui se multiplient au lendemain de l'annonce de la mort de Jacques Chirac.
Et des hommages forcément, Jean-Pierre, consensuels. On en a beaucoup passé, beaucoup entendu, à la fois de personnalités et d'anonymes. Mais ce matin, sur Europe 1, on ne cache pas aussi la part d'ombre de Jacques Chirac, que ce soit personnel ou sur le plan politique.
Mais nous
bilan.
Sommes tous sous le coup d'une émission qui est tout à fait légitime, que nous ayons travaillé avec lui, contre lui, que nous l'ayons combattu ou pas. Mais les Français aiment leur président, surtout quand ils ont quitté le pouvoir, quand ils sont malades ou quand ils meurent. De leur vivant, ils ne ménagent pas les critiques. Mais c'est vrai qu'on oublie l'autoritarisme, la brutalité, les mots à l'emporte-pièce de Jacques Chirac, les affaires avec la justice, la solitude, les abandons, les trahisons, les moqueries, le roi feignant. Aujourd'hui, tout est effacé.
Tout est effacé, Catherine ?
Tout est effacé.
Où il y a une trêve de 24 heures.
Je pense qu'il y a une trêve, là. Et je pense qu'on a même besoin d'une trêve. Je crois que la mort de Jacques Chirac arrive à un moment, vous voyez, où la France, on sent qu'il y a encore, des brûlots qui peuvent s'enflammer, tout ça.
Et donc, la tension.
Je veux dire, c'est un moment de tension. Et je crois que ce moment de communion, parce que les gens n'ont pas forcément trouvé qu'il était un grand président, qu'il était un grand réformateur. Mais c'était un homme qui aimait les gens. Et aujourd'hui, au moment de sa mort, il y a un retour d'affection vers lui, voyez.
Jean-Pierre,
mais ça ne veut pas dire pour ça qu'on adhère à ses manques, et il y en a eu beaucoup.
Catherine a raison, il y a aujourd'hui un besoin d'unité, de cohésion nationale. Il y a trop de divisions, trop d'inégalités, et on se dit juste ce moment-là, et on idéalise peut-être...
Nous avons passé cette interview exclusive sur Europe 1, on l'a entendu, maintenant dites-nous la vérité. Que vous a dit Jacques Chirac en dehors cette interview, Jean-Pierre ?
Ça
les à côté, les coulisses.
Ça ne vous regarde pas.
Les parce off, qu'il
y a des,
comme on dit.
Il y a des secrets que l'on garde. Ce que je sais, c'est qu'avec Ramzi Kheirouan, qui m'accompagnait quand on a enregistré l'émission, on a bu du gin tonic, on a bu la bière noire qui venait de Angela Merkel, qui était un cadeau. Et les secrets, on ne les raconte pas.
Juste une question. Jean-Pierre, Catherine, tous les deux, pardonnez-moi une question, parce que là, je ne veux pas souligner le fait que je suis beaucoup plus jeune que vous. Ça fait quelque chose, non ? Ça fait, franchement, ce matin, la mort de Chirac, Jean-Pierre, Catherine, ça, humainement, je veux dire.
Moi, ça me fait quelque chose parce que c'est 40 ans de ma vie privée et il y a eu des années où je faisais un papier sur Jacques Chirac tous les jours parce qu'il nous envoyait des cartes postales tous les jours. Alors, même, je veux dire, c'est peut-être que grâce à lui, j'ai appris à écrire parce qu'il fallait réinventer des formules parce que c'était tous les jours. C'était... Donc, c'est vrai qu'il n'a aucun homme politique. Aucun homme politique n'a autant empli notre vie, alors qu'il parlait peu, qu'il disait peu de choses. Comme président, il ne s'exprimait pas, mais il était un sujet de papier tous les jours.
Lui, comme François Mitterrand, comme Valéry Giscard d'Estaing et quelques autres, ça fait partie de notre vie. Mais je peux dire que moi, je ne faisais pas les commentaires comme Catherine, mais je l'ai interrogé quelques fois quand il acceptait de parler. Et je reconnais que c'est les pires moments de ma vie professionnelle que j'ai passé avec lui, parce qu'il était très dur, très menaçant. Il n'aimait pas. Il était mal à l'aise avec la presse. Ça, on le dit, on le répétera. Et que quand je savais que j'avais à l'interroger, ici à Europe ou à la télévision avec Alain Duhamel, c'était des nuits avec des cauchemars et sans sommeil.
Merci Jean-Pierre Cabache.
Parce que vous êtes
Cabache.
Un homme fragile.
Merci.
Les retrouvailles.
Jean-Pierre Cabache, les retrouvailles, justement, la petite histoire dans la grande. Merci d'être là, derrière ce micro, l'interview. Je suis ravie, vous nous avez mis le pied à l'étrier, beaucoup de générations de journalistes. Donc c'est avec émotion qu'on vous accueille dans ce studio et à cette place.
Merci de le dire et de le reconnaître. C'est la première fois que je viens, que je visite les très beaux studios.
On n'espère pas la dernière.
Les nouveaux locaux d'Europe 1, c'est
merci, vrai. Merci, bonne chance. Bonne chance.